le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Denis Gravel est en studio en ce mardi très ensoleillé. Je pensais te perdre aujourd'hui. Je me suis dit, il va rester dans le stationnement, se faire bronzer, affûter son bronzage.
La tentation était forte.
Pourtant, il y a le bras blanc, puis c'est juste ça qui est découvert.
Lentement, mais sûrement, on va se rendre à peut-être une journée de fin de semaine avec du soleil dedans.
T'es-tu le gars, maintenant qui va se mettre torse nu parce qu'il est bronzé comme un golfeur à un moment donné dans l'été?
Non, je regarde pas ça pantoute. Je vais au soleil une fois puis je bronze. Fait que c'est pas. C'est ni une source de stress, ni une source d'inquiétude.
C'est drôle de question, Pascal, aujourd'hui.
À m'imagine en béden.
Oui, non, tantôt, on parlait des hommes sexy de 60 ans.
OK.
Oh, oui, ben, il fait des détours intellectuels, là. J'ai juste dit que Patrick Bourgeois.
Oui.
Ça faisait.
Oui, oui. Brad Pitt, 60
ça
ans.
Ça fait.
Ça fait. Ton père, à quel âge?
Moins de 60.
Son père a 57.
C'est le seul homme. C'est le seul. Ben là, je touche. Ben, c'est peut-être pas le seul homme, je sais pas. Il y en a peut-être un autre là, qui va arriver à un moment donné, mais je. C'est... Nicolas, tu connais 47, ça fait pas.
Non. Mais Brad Pitt, 60, oui.
Ça fait.
Puis t'expliques ça comment, ton père?
Ah, oh, j'y explique pas. Qu'il fasse avec.
Tu lui dis qu'il travaillait tout le temps comme pompier. Fait que ben, ton père t'a toujours manqué, ça t'en prend un.
Arc, non.
Tu dis, ben, ça va te faire un ami de ton âge. Hein,
non, mais ils vont à la pêche ensemble.
Ça doit être épouvantable.
Épouvantable.
Alors, ouais. Ben non, je veux dire, pour un père.
Ben voyons.
Il y a un gars qui arrive chez vous, il a ton âge, puis c'est le nouveau chum de ta fille.
Je pense que ce qui était épouvantable, c'est que quand j'avais 15, 16, je sortais avec un gars de 18. Là, je pense que mon père avait hâte qu'on se colle un souper lasagne avec le gars pour voir il ressemble à quoi. Là.
Ah ouais, bon.
Ouais, ça, je pense que c'est plus épouvantable que si je me mets à sortir avec Brad Pitt dans les deux prochaines semaines.
Ouais, ça arrivera.
Voici mon numéro. 418-255.
Ça arrivera pas. Hey, Denis, je sais pas si t'étais à l'écoute tantôt, mais moi, j'ai pogné un méga 2 minutes. On en parle souvent, nous trois, de la maladie mentale au centre-ville de Québec. Les policiers qui doivent intervenir dans 80% des cas... À Saint-Roch, ça touche la maladie mentale. C'est une problématique de société qu'on a. J'imagine qu'ailleurs dans le monde, ils ont toutes les mêmes problématiques dans les grands centres. Mais il n'en demeure pas moins que ce matin, Audrey m'a envoyé un article du Devoir. Puis elle me dit, Yann, lis ça, puis on pourrait peut-être avoir la chance de recevoir ces deux personnes-là qui sont concernées par la maladie mentale d'un membre de leur famille. C'est dans le Devoir, l'article s'intitule « Des familles sans voix face à la maladie mentale ». Je trouvais ça intéressant. J'ai lu l'article jusqu'à temps que je croise son père et que je réalise vraiment l'ampleur des dommages que la maladie mentale peut avoir causé, tant pour son fils que pour la famille en entier, l'entourage aussi pour la ville où ces gens-là sont. Et pour la petite histoire, c'est Nathalie McDonald qui était avec nous, ainsi que son père Maurice, puis il nous parlait de Nathan, qui est le frère de Nathalie, qui est le fils de Maurice. Nathan, quand il était jeune, ça allait bien. Il était comme tout le monde, un enfant qui était qui s'amusait, qui avait du plaisir, qui était souriant, qui avait des amis. Puis à un moment donné, au secondaire, il a changé de gang. Puis cette gang-là, ben, c'était des gens qui prenaient régulièrement de la drogue. Puis on ne sait pas encore c'est quoi nécessairement cette drogue-là qu'il prenait, mais c'était peut-être du pot, c'était peut-être de l'acide, c'était peut-être des produits chimiques, mais il a commencé à développer des psychoses. Mm-hmm. Puis quand tu fais des psychoses toxiques, ben, tu as des chances d'en redévelopper d'autres par la suite. Puis Nathan a toujours été un grand consommateur de drogue, ce qui fait en sorte qu'il a été considéré comme étant un schizophrène. Et plusieurs fois, il a été arrêté. Plusieurs fois, il a fait des petits crimes. Plusieurs fois, il a menacé sa sœur de s'en prendre à son enfant de 2 ans et demi. Il voit des ennemis partout. Il appelle son père pour lui dire que sur le toit, il voit des espions. Son père qui veut l'aider, qui dit « Garde, mon fils est peut-être pas totalement fou. » Fait qu'il passe la nuit de garde en face de l'édifice où son enfant réside. T'es pour chiant. Voir si vraiment il y a des gens qui se promènent sur le plafond. C'est des décennies qui s'accumulent où ces gens-là demandent de l'aide puis réussissent pas à avoir de l'aide concernant ce membre-là qui se serait doté d'une arme à feu dimanche, alors qu'il a un dossier criminel. T'sais, donc, on présume que c'est une arme à feu qui a été obtenue de façon illégale. Et c'est un gars qui est atteint de schizophrénie. Il prend pas ses médicaments. Et eux essayent absolument tout. Essayer de le garder à Robert Giffard, exemple, ou à Pinel, parce que ce gars-là représente un danger pour la société. S'il ne s'aide pas, c'est le cas. puis sont complètement démunis, Denis.
Écoute, dans la région, évidemment, on est très sensible à ce genre d'histoire-là parce qu'il y en a une qui nous a littéralement explosé au visage. Une histoire qui ressemble en tout point à celle que tu nous racontes puis que tes intervenants sont venus raconter cet avant-midi. À partir du moment où le gars est dangereux, a des antécédents violents, puis qui est rendu avec une arme, moi, je pense que les policiers doivent intervenir et doivent le faire rapidement. On nous a dit qu'on allait changer nos politiques et nos façons d'interagir et d'intervenir dans des cas comme ceux-là, où tu as des proches, et on est chanceux parce qu'il y a des proches. Parce que ce qui me fait freaker le plus dans ces histoires-là, Yann, moi, c'est le nombre de personnes qui sont exactement dans le même état, mais qui n'ont personne dans leur entourage. Là, tu as des gens plus que dévoués qui tirent les sonnettes d'alarme. Il y en a un qui monte littéralement la garde devant l'immeuble où son enfant réside pour essayer de protéger du monde. Ces gens-là ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. C'est des saints et des saintes qui vivent probablement un cauchemar réveillé. Il n'y a rien de pire que d'imaginer son fils ou sa fille qui tourne de cette façon-là puis qui devient une espèce de bâton de dynamite avec une mèche ultra courte.
C'est un danger. Puis tes écoutes, là, puis la chose qui me revenait, c'est qu'ils sont en constante hyper-vigilance envers un de leurs proches. Puis ça, là, c'est la pire affaire pour la santé physique et mentale.
C'est
aussi,
sûr.
Là.
Ils méritent pas ça. C'est des gens qui méritent d'être accompagnés. Ouais. Mais là, on est rendu à l'étape où on doit intervenir et on doit le faire le plus rapidement possible.
Ouais. Fait qu'en parlant, parce que c'est arrivé la semaine dernière quand on parlait avec le syndicat des ambulanciers, la CAQ a appelé directement le syndicat en disant « On veut s'adresser à vous autres. » On a fait une entrevue à Boulevard. On vous a entendu à Boulevard, puis on veut vous rencontrer. Puis en parlant de ce cas-là, puis de d'autres cas, comme le cas de Kim Lebel. Tu sais, Kim Lebel qui a tué Jacques Côté, même affaire. Les parents faisaient tout pour essayer de faire en sorte que Kim Lebel, qui était leur enfant, ne s'en prenne pas à d'autres personnes. Ils ont tout fait, les démarches nécessaires, ça fonctionnait pas. Ils s'en vont à la centrale de police du parc Victoria pour dire « Notre fils est malade, allez le chercher, ça n'a pas de bon sens. » Quand ils reviennent à la maison, ils aperçoivent Kim Lebel qui est en train de varger à coups de pelle d'en face Jacques Côté. Il est en train de détruire le visage au grand complet. Son père, qui est complètement démuni, qui est en voiture avec sa femme qui est à côté, dit « J'ai pas d'autre choix que de rentrer avec ma voiture dans mon fils pour le tasser
pour l'arrêter.
Il a fessé son fils sa route pour l'arrêter de fesser un corps qui était rendu inerte.
Imagine-toi le courage que ça prend, puis à quel point tu es convaincu que ça va mal virer quand tu vas dénoncer ton propre fils aux autorités. Quand tu fais des entrevues dans des stations de radio pour signaler « Là, mon fils est schizophrène, il est violent, il est agressif, il menace ouvertement puis il vient de se procurer une arme puis j'ai la chienne que ça vire mal. » On est des parents, on est fiers de nos enfants puis on a peut-être parfois de mauvais instincts par-dessus lesquels il faut passer à un moment donné dans notre vie de dire « C'est mon fils, mais là, je dois aller le signaler parce que ça va mal virer. »
Mais c'est de l'amour, ça aussi, là.
C'est de l'amour aussi, mais...
Plus violent.
Moi, j'ai l'impression que dans le processus de réflexion, il faut que tu passes par-dessus la notion « En tant que parent, il y a quelque chose que j'ai pas fait comme faux. » Puis là, je m'en vais me dénoncer, entre guillemets.
Ah,
puis je le sais que c'est pas ça, là. Sur le fond, je suis convaincu que c'est pas ça. Mais entre les deux oreilles d'un parent, c'est sûr que tout est de notre faute, puis qu'on prend l'entière responsabilité. Tu passes par-dessus ça parce que tu te dis, là, il y a du monde qui vont peut-être mourir.
Oh, c'est souffrant. C'est
mon devoir de citoyen qui passe par-dessus mon instinct parental de protection, puis qui dit, OK, là, il faut que j'aille parler à la radio parce que personne m'écoute. Il faut que je me rende au poste de police direct parce que là, ça s'en vient puis je sais pas quoi faire. Je peux te dire qu'Audrey est sur le téléphone présentement parce qu'on essaye d'avoir des réactions et du gouvernement et des autorités responsables dans la région où ça se déroule. Puis c'est une histoire qu'on va essayer de faire avancer cet après-midi. Pour les gens qui l'ont manqué, elle est déjà disponible sur le blvd.fm, Yann. Puis il y a de bonnes choses. Je pense que pour la mise en situation, on réécoute la conversation que vous ayez eue cet après-midi. Puis, comme je vous dis, là, moi, je pense que c'est un dossier qui doit avancer excessivement rapidement. Là. T'arrêtes le day-to-day, puis tu t'en vas chercher ce gars-là. Là. Puis j'espère qu'on va avoir du concret à vous offrir cet après-midi dans le retour par rapport à tout ça.
Oui, puis les parents semblent être obligés de se battre contre le système qui est mis en place. T'sais, autrefois, dans les années 60-70, il y avait quelqu'un qui était malade au niveau psychologique. On pouvait le rentrer à l'hôpital pendant plusieurs mois, plusieurs semaines pour qu'il puisse se faire soigner, puis après ça, ressortir si tel était le cas. Aujourd'hui, comme son père m'expliquait, c'est le balancier est complètement rendu à l'autre bout.
Avant, on prenait quelqu'un qui était louche, on l'enfermait à l'asile parce qu'on se disait le plus important, c'est de protéger les citoyens. Ouais. Et là, on est rendu effectivement complètement à l'autre
les droits
bout
de
du
la
balancier.
Personne.
Oui, puis ça crée des situations dangereuses. Puis je repose la question. Pour une personne qui est signalée par sa famille, par ses proches, par son entourage, il y a combien de gens seuls qui sont exactement dans le même état? Il y a encore eu de la violence hier dans le secteur de Québec.
Un homme de 70 ans qui s'en est pris, un homme de 40 ans, un coup de couteau. On craint pas pour la vie de l'homme de 40 ans, mais on pense que ce serait une dette. Là. Donc,
ouais. En plein jour, là, il était pas tard, 18h.
18h30 de mémoire.
Ouais.
Dans un secteur très urbain, très fréquenté. Puis
à cette heure-là, tout le monde sort du travail.
Ben oui, c'est l'heure des 5 à 7. Ouais. On n'est pas loin du parvis. Je veux dire, écoute, il y a beaucoup de réflexions à avoir, puis c'est un problème qui prend tellement d'ampleur, puis sans revenir aux années de l'asile où ce qu'on prenait quelqu'un qui avait l'air louche puis qu'on l'enfermait d'une camisole de force puis qu'on lui donnait des électrochocs, sans tomber dans la caricature, il faut peut-être recommencer. Commençons par l'étape la plus simple. Écoutons les gens inquiets qui viennent signaler un membre de leur famille en disant « Nous autres, on a tout donné, mais là, on a besoin d'aide puis on pense que ça va mal virer. »
C'est
la moindre des choses.
C'est même particulier qu'on se rende compte qu'il n'y a pas vraiment un canal très, très précis, très développé, très structuré pour ce genre de dénonciation-là, que ce soit anonyme ou pas.
Après Kim Lebel, on nous a dit que ça allait changer.
Mais il n'y a rien.
On nous a dit que le canal d'intervention serait à la fois direct, différent, efficace.
Oui, mais dans les rapports, la commission Charbonneau, la commission, tu sais, ce qui se passe avec la commission Gala, ce qui se passe avec la DPJ, on a toujours, mettons, même dans les rapports coronaires, des recommandations quand même intéressantes après avoir été sur le plancher. Puis quand tu fais des suivis, puis on en a fait, puis je pense que surtout dans tout ce qui est la DPJ, on se rend compte qu'il n'y a rien qui change.
Mais mettons que les protocoles nouveaux ne sont pas mis en place ou ne sont pas complétés. Il faut quand même montrer qu'on a appris. Et là, c'est une question d'urgence de trouver ce gars-là, de le mettre aux arrêts. Et après ça, ben au pire, s'il y a des gens qui ont exagéré le danger relatif de l'individu, ben on se sera protégé. C'est pour ça que les alertes Amber existent. Mm-hmm. Une fois de temps en temps, il y a une alerte Amber qui se déclenche, puis une demi-heure plus tard, tout est réglé. Mais qu'est-ce qu'on dit? On prend plus de chance avec ça.
Exact.
Ben, des dossiers comme ceux-là, la société n'a pas le luxe de prendre une chance avec un gars schizophrène dénoncé par sa famille qui s'est trouvé un gun en fin de semaine.
Mais exact. Mais son père, il m'a dit des choses hors d'onde que je ne répéterai pas parce que c'était une conversation de moi à lui, puis je veux le respecter dans ça, puis il n'y a rien de dangereux dans ce qu'il m'a dit. Mais il y a une chose qui m'a marqué, puis je pense qu'il me l'a dit en ondes, c'est pour ça que je peux me permettre de vous le dire. Son père se bat depuis des décennies pour que son gars se fasse soigner, pour que son gars cesse de faire du mal aux gens qui l'entourent. Okay?
Ouais.
Il se heurte à des fonctionnaires qui disent « Monsieur, il vous a menacé. Vous pensez qu'il vous a menacé? » Parce qu'il a dit « Je vais te tirer. » Mais regardez sur le « E », il n'y a pas d'accent. Donc, « Je vais te tirer », c'est pas nécessairement une menace.
T'es pas sérieux.
Oui, il me l'a dit en nom.
C'est...
Fait qu'on en est rendu là avec des fonctionnaires qui doivent respecter le code à la lettre. Puis là, ils regardent ça. Ah, c'est écrit « tir », c'est pas écrit « tirer ». Donc, techniquement, c'est pas une menace. Passez une belle journée, monsieur. S'il y a de quoi, rappelez le 911.
Mais c'est tellement con que tu te dis, pourquoi est-ce qu'une personne est capable de computer comme ça cognitivement en disant « Oui, c'est correct, je vais te laisser partir. » Est-ce-tu parce qu'ils savent que derrière la paperasse ou l'intervention ou autre ne se fera pas, puis ils veulent faire en sorte que, mettons, le père... qui n'est pas du tout stupide et qui est très conscient et lucide, va pas repartir avec moins d'inquiétude. Mais est-ce qu'ils se disent bah, « ça va peut-être désamorcer la situation », je comprends pas.
Écoute, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas schizophrène, je suis pas violent, je suis pas dangereux, puis je révise pas toujours mes fautes. Là.
Je mets aucun accent sur Messenger, attention la gang.
Fait que les schizophrènes, ils peuvent pas faire de fautes, ils veulent bien s'exprimer.
C'est
ils pas le droit.
Complètement, complètement ridicule. Puis encore une fois, moi, je veux saluer ces proches-là. 99% du temps, c'est pas de leur faute. Puis c'est des gens qui, effectivement, vont se dédier, un parent se dédie à son enfant, quoi qu'il arrive. Puis quand ça tourne comme ça, c'est le cauchemar de n'importe quel parent. Tu sais.
J'ai manqué un bout. est-ce qu'ils sont catégorisés comme proche aidant aussi? Parce que le temps investi là-dedans, s'il arrive proche d'un genre de tragédie possible, le temps de se déplacer, d'y aller, perdre du temps de travail, être toujours sur le qui-vive. Puis ça, c'est pour protéger la société, là, pas juste leur propre personne et leur famille et leur fils. Là. Est-ce qu'ils sont catégorisés? Parce que ça, c'est une question qui importe dans le dossier.
C'est une bonne question, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'aide. Puis si on peut servir à quelque chose dans la vie, là, quelque chose de positif, c'est ça. Fait qu'on va s'organiser pour que la conversation qu'on a eue avec eux, ouais, que l'article du Devoir se rende à la Coalition Avenir Québec, puis que la Coalition Avenir Québec sorte en disant « voici ce qu'on va mettre en place ». Ils doivent le faire.
Tu sais, pour avoir eu quelques histoires de problématiques de santé mentale dans mon environnement immédiat, à un moment donné, c'est jusqu'où tu peux aller pour aider une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. Une personne adulte qui ne veut pas prendre ses médicaments. Une personne adulte qui non seulement ne prend pas ses médicaments, mais prend de la drogue. C'est à partir de quel moment que tu te dis « ben, je lâche prise, puis arrivera ce qui arrivera », parce que tu peux pas t'interposer, t'es pas un policier, t'es pas une autorité, t'es un proche aidant d'une personne qui veut pas toujours s'aider, et dans le cas d'un schizophrène, pas toujours capable de prendre les bonnes décisions non plus, parce que pas capable d'avoir le jugement nécessaire pour ça, mais... Quand la personne a 13 ans, t'es son autorité. Quand la personne en a 22, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire. Puis il n'y a rien de plus triste que de voir une personne intelligente se désorganiser de façon permanente, puis voir que cette personne-là sera plus jamais capable de remettre les morceaux de casse-tête dans l'ordre. Moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé, là. Je veux dire, qui vit dans la rue aux dernières nouvelles et qui a un restraining order contre des enfants de sa famille parce qu'elle a des antécédents puis des réactions violentes. Puis c'est une personne que j'ai perdue de vue, mais à une certaine époque, c'était une personne très intelligente qui gagnait des prix au secondaire, qui gagnait des prix au cégep. Puis à un moment donné... La schizophrénie s'est installée. Elle a refusé de prendre sa médicamentation parce qu'elle disait qu'elle n'était pas malade. Pas beaucoup de gens dans son entourage rapprochés pour essayer de la convaincre de prendre les bonnes décisions.
Ouais.
Tu te retrouves à regarder à une certaine distance l'accident de char de quelqu'un qui t'aime et tu peux pas intervenir. T'sais.
Mais... J'ai un ami comme ça puis il est rendu sur la rue Saint-Jean à demander 3$.
Ouais. Ouais. Peut-être que les médias ont un rôle à jouer là-dedans dans le sens où quand les politiciens annoncent quelque chose de positif puis tu vois qu'ils travaillent comme en amont, on aurait comme avantage à couvrir ce politicien-là parce que dans les médias, ce qu'on fait naturellement, c'est on couvre la réaction.
Ouais.
Fait qu'il y a un gars à l'Halloween qui se déguise, qui arrive avec un sabre, il décide de découper tout le monde qui croise sur son chemin dans le secteur du château Frontenac. Pouf, réaction, Geneviève Guilbeault, Lionel Carman qui
lendemain
arrive. Un 100 millions de dollars pour la santé mentale. On le sait, pendant la pandémie, ça n'a pas été facile. Fait qu'on va investir 100 millions de dollars. Là, cette conférence de presse-là a fait le tour du Québec au grand complet parce que la CAQ a dit « Hey, wow, tabarouette, ça n'a pas de bon sens que le gars ait fait une affaire de même. » Fait qu'on va aider à la santé mentale. Mais quand tu jases avec les gens qui travaillent en théâtre de guerre, ils disent « Cet argent-là, on ne l'a jamais vu. » Pourtant, l'annonce est arrivée.
Ouais.
Mais
c'est triste, puis en plus, c'est 100 millions. Yannick, tu le sais autant que moi, Denis, même affaire, quand même que tu mets ça sur la table. Mettons qu'il l'aurait vu, cette enveloppe-là. Il faut quand même réguler où c'est que tu le mets.
Mais c'est d'en parler quand les politiciens le font en amont. De dire « Tabarouette, ils sont en train de prévenir quelque chose. Geneviève Guilbeault, Lionel Carman ont fait ça va peut-être prévenir des drames, cette affaire-là, puis mettre ça positif, parce que nous, on couvre la réaction constamment. Fait que les politiciens, eux autres, ça leur sert à quoi de travailler en amont si c'est pas payant politiquement pour eux?
Yann, en toute honnêteté, là, si on n'a pas des bonnes nouvelles à vous donner à la fin de la journée dans un dossier évident comme celui-là, là, moi, je finis ma journée désabusée. Là. Le gouvernement, ça sert à rien. Les policiers, ça sert à rien. Les médias, ça sert à rien. On a tout ce que ça prend entre les mains présentement pour faire en sorte que ce gars-là soit arrêté, soit détenu, soit interrogé et que les gens que tu as reçus en studio tantôt soient protégés. Si à la fin de la journée, on n'est pas capable, en tant que société, de faire avancer un cas flagrant et urgent comme celui-là, il n'y a plus personne qui sert à rien, là. À suivre cet après-midi, les amis.
J'en profite pendant le temps que je sens une petite faiblesse de ta part là, pour te parler de l'Office québécoise de la langue française.
T'es sûr que tu veux pas leur faire sauter une journée, eux autres?
Hey, moi, j'aimerais ça.
Denis,
là.
À travers le Québec, là, T'as combien de gens que t'as côtoyés qui ont déjà fait une plainte à l'Office québécois de la langue française?
Zéro.
Pascal?
Zéro.
Zéro.
Zéro. Zéro comme dans Ouellet.
Des auditeurs qui nous écoutent présentement qui ont déjà fait une plainte ou qui connaissent quelqu'un qui a déjà fait une plainte à l'Office québécois de la langue française au 418-971-1021, ces gens-là sont où?
À Montréal.
Montréal.
Ah, j'ai l'impression. Je sais pas si... J'ai pas regardé les chiffres de très près parce que le chiffre est hallucinant.
10 000?
Ouais. 10 000 plaintes, c'est quoi? C'est pour la dernière année?
Pour la dernière année, donc dernière année financière 2024-2025 qui s'est conclue le 31 mars dernier.
Est-ce que tu as le pourcentage de plaintes qui provient de l'île de Montréal dans ces chiffres-là?
C'est une... Je l'ai, oui.
C'est
la
quoi?
La plupart des... la part du Lion vient de la région de Montréal. C'est 53 %.
Pas surpris.
La Montérégie, c'est ce qui se passe en Montérégie, c'est 12 %.
Pas pis... content. Pas content.
Capitale nationale, on arrive à 8 %. Donc, 53 % des plaintes à l'Office québécoise de la langue française, ça vient de Montréal et Québec, 8 %.
On a-tu le pourcentage de gens qui écrivent plus de 100 plaintes par année à l'Office québécois de la langue française? Ben, ça, c'est mon autre théorie.
J'ai son visage.
Ah, OK. C'en est un, ça?
Son nom, c'est François Perrault.
Oui.
Et lui,
semble avoir beaucoup de temps.
OK.
Il semble être un retraité de Radio-Canada. Je sais que ça va te surprendre, mais il semble être un retraité de Radio-Canada selon son profil
pas
LinkedIn.
Pas tombé à terre.
Et lui, il se promène à Montréal et dès qu'il voit quelque chose qui n'est pas conforme, ben, il appelle constamment à l'Office québécois.
J'aimerais avoir aussi peu de responsabilité dans ma vie pour avoir du temps à perdre à ce point-là.
Tu le reçois.
Mais malheureusement, j'ai des passions.
OK, je plonge, les gars, parce que j'ai essayé de trouver la zone grise dans tout ça.
Oui.
Parce qu'il y avait un visage, parce qu'il y avait 50% de plaintes du côté de Montréal, parce que ça fait l'actualité. Puis Caroline, je savais qu'avec... Est-ce que c'est, ça brasse plus à Montréal parce que le multiculturalisme est tellement fort qu'il y en a qui pensent que, avec la peur que peut-être certaines personnes ont, peut-être avec le genre de sentiment, ils volent nos jobs, qu'on entend une fois de temps en temps, qu'il y a quand même du racisme puis qu'il y a un manque de savoir-vivre, quand à Montréal, ça fonctionne quand même bien. Puis ce multiculturalisme-là doit jouer. Puis sinon, moi, ma prétention de croire, c'était comme, ah, ben, peut-être en région, ou des gens qui ont moins appris l'anglais, qui côtoient moins, tu sais, le stéréotype de base, là, côtoient un petit peu moins la diversité, arrivent dans un commerce, ils sont en anglais, ils ne comprennent pas trop, ils se sentent incompris. J'essayais d'aller trouver la zone grise.
Mais 2005, j'avais qu'un seul critère là, pour ce qui est de mes blondes, c'est que ça devait être des barmaids, ce qui faisait en sorte qu'on allait régulièrement s'amuser à Montréal. Puis on se tenait dans le coin de la rue Crescent. Puis, je me faisais jamais servir en français.
Là. Ouais.
C'était déjà en anglais. Puis, les statistiques sont juste hallucinantes, là. 2017, on est à peu près à 2000 plaintes. Là, on est rendu en 2025, 10 000 plaintes.
Je suis pas surpris que des gens avec peu de vie et peu de passion se trouvent ce genre de croisade-là. Je pense pas que notre bon monsieur retraité de Radio-Canada soit le seul, puis je trouve ça malheureux. Tu sais, on veut ouvrir des possibilités à des gens qui viennent d'ailleurs, mais en même temps, on voudrait qu'ils parlent un français impeccable à partir du moment où ils mettent le pied à terre.
6 mois!
Moi, je l'ai encore sur le cœur, l'histoire à Stoneham, là, à Shop de Croissant, où des vieilles madames pain-bêche se sont plaintes parce que ils se faisaient pas servir leur croissant beurre dans un français impeccable parce que les immigrants venaient d'arriver. Puis le propriétaire de la shop à croissant disait « Hey, les amis, un peu de tolérance.
Oui.
Tu fais pas 2 semaines qu'ils travaillent ici. Oui. Tu fais pas 2 semaines qu'ils sont arrivés dans la province de Québec. Encore là, quand tu regardes dans ce secteur-là, qui vit là, y a moyen de faire des liens, là. »
Denis.
Ah, absolument. Absolument. On les connaît. C'est des noms connus.
Pas trop fort, pas trop de bruit, pas trop de construction. Ça arrive.
Ben,
mais il y aurait pas leur croissant beurre si ces gens-là n'allaient pas travailler dans cette shop-là. Avec
très
la pénurie
bon point
de main-d'œuvre, c'est des gens qui nous aident énormément côté économie. On peut-tu les aider minimalement?
Micheline
aussi
a son sac de ça.
Ah, Micheline, elle n'aura pas son croissant. Fait que le temps qu'elle réalise...
Micheline est juste fâchée.
Là, pauvre Micheline, là, t'es en train d'insulter une couple.
Mais tu sais, n'en demeure pas moins que... Tu sais, moi, je pense que pour ce qui est de la devanture de ton commerce, que ce soit écrit, je sais pas moi, le nom de ton commerce est en anglais, puis que ce soit écrit « Ici, on vend des chaussures », ça me dérange pas tant. Mais ce que je trouve particulier pour les commerçants avec la nouvelle loi qui est en place, c'est que tous les produits que tu vas acheter, s'ils sont expliqués dans les deux langues, donc sur la face A en français, face B en anglais, ben il faut que la face A soit plus grosse que la face B.
Incroyable.
Mais les distributeurs, eux autres, ils se sont pas revirés de bord, là.
Fait que
c'est toi qui vas devoir, avec ton imprimante,
oui,
écrire chaque étiquette pour être sûr et certain que tu sois conforme à l'Office québécois de la langue française.
Et il y en a beaucoup qui ne le feront pas, ce qui va faire en sorte que bien des produits disponibles présentement sur les tablettes de la province de Québec, le seul endroit où vous pourrez les acheter, c'est Amazon. Donc, on prend des clientèles spécialisées qui fréquentent des magasins spécialisés. Ça prend une grande méconnaissance de l'industrie pour penser que ces lois-là font du sens. Là. Faut vraiment... On est à la fois méga complexé, puis on se prend pour tellement plus que ce qu'on est réellement dans l'univers. C'est comme les deux en même temps. C'est un paradoxe qui est fascinant. Tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend ces clientèles-là, on va faire fermer les magasins spécialisés, puis ces gens-là vont faire affaire directement avec des sites Internet pour avoir les produits qu'ils ont besoin.
Mais ils vont chialer parce que c'est Amazon, ils vont chialer. Tu sais, le chialage, voilà.
Ah, eux autres vont chialer, ouais. Mais moi qui me contre-calisse de l'emballage de ce que j'ai besoin, je vais commander sur Amazon, puis je le fais déjà.
Ouais.
C'est malheureux, mais c'est là qu'ils nous poussent. Donc,
c'est ça, c'est ironique, parce que si tu t'en viens trop strict et de façon trop fermée, puis un petit peu démagogue dans ton approche par rapport à ça, ben tu vas devoir aller consommer dans quelque chose d'américain où tu n'auras pas le service que tu veux. Même retourner ta commande, tu ne seras pas capable parce que tu n'auras pas un commerce de proximité dans ce que tu souhaites avoir comme possession.
Moi, je trouve que cette loi-là va beaucoup trop loin pour nos commerçants. Je pense qu'ils vont revenir avec une date peut-être de 6 mois. Là. C'est sûr qu'ils vont revenir là-dessus parce que tout le monde est dans le trouble actuellement. Fait qu'ils vont redonner un délai de 6 mois. Mais tu sais, j'ai fait quelque chose chez nous. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont le français de leur mère. Fait qu'ils parlent bien en français. Mais chez nous, quand ils écoutent de quoi, c'est tout le temps en anglais. Puis, à partir du moment où je leur ai dit, les gars, vous n'avez pas le choix. Ce que vous écoutez, vous devez constamment l'écouter en anglais parce que c'était tout le temps des YouTubeurs français-marocains. Je n'étais plus capable. OK? J'aime les Marocains, mais c'est juste que les YouTubeurs français-marocains, je m'arrivais avec des wesh dans la maison.
Mais il y en a qui sont écœurés de passe-partout. Là,
fait que là, ils écoutent tout en anglais chez nous, chez leur mère, ils écoutent tout en français.
Fait que les vidéos des tournées une étoile en Belgique, t'as plus ça, toi?
Non!
Mon chanceux.
Puis là, là, ça va faire en sorte que, tu sais, ils commencent à prendre connaissance à quel point l'anglais c'est important. Puis, tu sais, vous en parliez dans le show du matin, dans les années, début des années 2000, tu sais. Puis encore aujourd'hui, en 2025, c'est important. Autant qu'on conserve le français au Québec, autant que nos enfants soient capables de se débrouiller dans les deux langues.
Écoute.
C'est le petit manque qu'on a eu, nous autres.
Ben oui, puis plus t'as d'outils dans ton coffre à outils, plus tu peux aller loin, plus tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sais, tu me connais, particulièrement avec l'Office québécois de la langue française, je suis un gars zen! Je suis un gars qui voit le bon côté des choses. Puis, faut voir le côté humoristique là-dedans. Dans un magasin de disques, je sais pas comment ça va fonctionner, mais s'il y a des gens qui décident de prendre les albums connus et de faire la traduction française sur l'étiquette, je suis le premier à avoir très hâte d'aller m'acheter le cœur solitaire du Sergent Poivre du groupe Les Scarabées mal écrits. J'ai très, très hâte. Très, très hâte. Ça va être pour moi un beau moment que je vais vivre.
Puis on va scraper la carrière à Nicolas Ciccone qui vient de sortir un nouveau hit aujourd'hui parce qu'il la chante en anglais.
C'est quoi? Qui est-il?
Tu connais pas Nicolas Ciccone?
Pas vraiment, non.
Ah, sérieux, là. Elle m'a fait jouer ça tantôt en début de show, là. T'sais, Nicolas Ciccone puis Safia Nolin pourraient servir d'objet de torture à Guantanamo Bay.
Je trouve que t'es
pour ce qui est des terroristes qui veulent pas parler, là. Tu leur fais écouter ça 24 heures sur 24.
Ah, pas besoin d'aller à Guantanamo. Moi, j'ai averti mon grand, lâche ton sel ou on part Safia, là.
Il est crazy over you.
Je trouve pas ça speed.
Hein? Je suis désolé, Denis. Next to you, I'm so joyeux.
Denis, va falloir que tu quittes Antonine Iaccarini sans vient.
T'es sûr que tu veux pas écouter l'album Gratitude?
Non, pas
avec Gaffa,
non.
Avec Dynamite.
Désolé,
j'ai hâte d'entendre Antonine sur l'Office québécois de la langue française,
exact.
Par exemple.
On va parler d'un autre sujet, mais Antonine s'en vient. Midi 31, vous savez les choses à nous dire. C'est le 418-971-101. Si se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est par texto.